Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Mélina Fachin.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. Dès le début de ce journal, nous prendrons la route du Tour de France puisque la 15e étape a déjà démarré. Hier, les Français nous ont régalés. Thibaut Pinot est arrivé vainqueur au Tourmalet et Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune. François de Rugy a-t-il démissionné trop vite? Certains commencent à le penser. Les premiers résultats de l'enquête concernant le coût des travaux du logement de l'ancien ministre lui donnent raison, deux jours après avoir déjà été rassuré dans l'affaire des dîners fastueux. Un hommage a été rendu ce matin à Paris aux Juifs disparus durant la rafle du Veldiv et aussi aux Justes, ceux qui ont pris le risque de sauver des vies durant la Seconde Guerre mondiale. On ira faire un tour aux États-Unis où il fait excessivement chaud en ce moment et vous verrez que là-bas aussi, l'Olympique de Marseille a ses fans. Et puis une petite escapade en fin de ce journal au phare de Cordouan, le plus vieux de France. Il est toujours en activité. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous.
Où nous emmènera votre rendez-vous de l'été, les chemins d'écrivains à 12h40?
Eh bien, chez Louis Aragon et Elsa Triolet, au moulin de Villeneuve dans les Yvelines. Notre guide sera Evelyne Bloch-Dano qui publie Mes maisons d'écrivains. À tout à l'heure, 12h45.
À tout à l'heure, Bernard. Le temps, Valérie Quintin, il fait juste très beau aujourd'hui.
Oui, c'est une belle journée d'été, ensoleillée, pas trop chaude, tout va très bien. On va juste prévoir quelques orages ce soir en montagne, comme pratiquement tous les étés d'ailleurs, dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Tout cela avec des températures vraiment raisonnables. 21 degrés à Cherbourg aujourd'hui, 25 à La Rochelle, 26 à Biarritz, comptez 29 à Paris et Nancy cet après-midi, 30 à Bordeaux, à Ajaccio, à Colmar, 32 degrés à Lyon et 33 à Grenoble et à Agen.
Merci Valérie.
RTL, Tour de France 2019.
Après une journée en or hier pour les Français, 15e étape aujourd'hui entre Limoux et Foix, la dernière dans les Pyrénées, 185 km. Les coureurs ont déjà pris le départ il y a une vingtaine de minutes, Nicolas Georgerot.
Exactement, dernier chapitre pyrénéen dans l'Aude et l'Ariège sous un ciel menaçant aujourd'hui. Il fait chaud, il fait lourd sur la route du Tour. Des orages sont possibles sur les sommets. Évidemment, cela pourrait avoir son importance au fil des quatre ascensions au programme du jour. La première de ces ascensions, le col de Montségur, première catégorie, sommet négocié au kilomètre 60 aux alentours de 13h45 tout à l'heure. Thibaut Pinot a eu du mal à trouver le sommeil cette nuit. C'est ce qu'il nous racontait ce matin, quelques étoiles encore dans les yeux au départ à Limoux après son succès hier soir au Tourmalet. Julien Alaphilippe continue sa chevauchée en jaune. Il devra une nouvelle fois aujourd'hui résister aux attaques des autres favoris. 2 minutes et 02 secondes d'avance sur Geraint Thomas, le Britannique, au classement général ce matin. Pour l'instant, eh bien, bientôt 20 km parcourus et nous sommes à la sortie d'Esperanza. Et il y a 4 hommes en tête, un petit groupe de 4 avec l'Italien Os, le Français Cosnefroy, le Polonais Wisniewski, l'Irlandais Roche, mais l'avance n'est que de quelques secondes sur le peloton qui roule très très vite et qui est en train de revenir sur les premiers attaquants du jour.
Merci Nicolas Georgerot et on vous retrouve toute la journée évidemment sur RTL pour faire le point sur cette 15e étape.
Avec les fenêtres de Koenig, retrouvez toute l'actu du vélo. De Koenig, fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Plus d'infos sur dekoenig.fr.
L'exploit des Français hier a été réalisé sous les yeux du président de la République. Emmanuel Macron a suivi le peloton en voiture. Il espère, a-t-il dit, déjouer la malédiction et voir dans une semaine un Français arriver en jaune sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron qui profite d'un petit regain de popularité, la cote du président ainsi que celle d'Édouard Philippe a légèrement progressé par rapport au mois dernier. Plus 2 points d'opinion favorable selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. 32% pour Emmanuel Macron, 36% pour le Premier ministre. Encore une victoire pour François de Rugy contre Mediapart. Selon les résultats de l'enquête commandée par le gouvernement, le coût des travaux dans son ancien logement de fonction est justifié. C'était l'une des révélations de Mediapart qui a poussé l'ex-ministre de la Transition écologique à la démission. Vendredi déjà, les premiers éléments d'une autre enquête avaient dédouané François de Rugy dans l'affaire de ses dîners somptueux avec Omar et Grand Cru. Pour Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-Denis, l'ancien ministre a été cloué au pilori bien trop vite.
Mais au fond, la question n'est pas François de Rugy, mais à chaque fois l'emballement, le lynchage médiatique de tout responsable public, il peut être politique, il peut être journaliste quand on parle de harcèlement sexuel ou chef d'entreprise, où on juge avant de savoir. Et c'est exactement ce qui se passe pour François de Rugy. On condamne, on fait démissionner avant qu'on puisse savoir la vérité. Et c'est ça que je dénonce. Cette société où finalement le jugement, la justice n'a plus de raison d'être. Il suffit simplement que l'écho médiatique, le lynchage, finissent par démolir quelqu'un. Et l'opinion publique repart avec la bonne conscience de s'être fait plaisir. Eh bien, ce n'est pas ça une société démocratique. Et malheureusement, on n'apprend rien de nos erreurs. Tout le monde recommence de la même façon pour faire du buzz, pour faire du business, pour se faire de la popularité. Chacun y va, rajoute sa petite couche. Et puis après coup, on voit qu'il ne s'est rien passé.
Le coup de gueule de Jean-Christophe Lagarde, député UDI de Seine-Saint-Denis, joint pour RTL par Agathe Landais. Ils disent non au déremboursement de l'homéopathie. 45 députés de tous bords, dont 5 de La République En Marche, le clament haut et fort dans une tribune du journal du dimanche. Les petits granules répondent à un réel besoin médical et ils demandent au gouvernement de revenir sur sa décision de dérembourser totalement l'homéopathie dans un an et demi. Un hommage aux Juifs de France arrêtés lors de la rafle du Veldiv. La ministre des Armées Florence Parly a présidé ce matin une cérémonie à Paris en cette journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites. Un hommage également aux justes parmi les nations, ceux qui durant le conflit ont risqué leur propre vie pour en sauver d'autres. Sophie Orange, vous avez assisté à cette cérémonie ce matin dans le 15e arrondissement de Paris, tout près de là où a eu lieu la rafle du Veldiv.
Cérémonie poignante, émotion intense. Le public et les officiels se lèvent pour saluer le témoignage d'Esther Seynaud, 92 ans, qui a miraculeusement échappé à la rafle. Inlassablement, elle raconte son histoire.
Le plus important pour moi et pour les témoins en général, c'est d'expliquer aux jeunes les ravages que produisent la haine, le racisme, la xénophobie, et tenter aussi de leur faire prendre conscience de la valeur du régime démocratique. Je fais partie de ceux qui témoigneront jusqu'au bout.
L'émotion aussi pour la ministre des Armées, Florence Parly, la gorge nouée lorsqu'elle évoque la responsabilité de la France en 1942.
Tant que nous nous souviendrons, tant que nous transmettrons, ils resteront présents. Leur nom ne doit jamais sombrer dans l'oubli. N'oublions jamais que la France a trahi ses propres enfants, ses enfants aimants, pétris des valeurs qu'il avait fait naître.
Pour Serge Klarsfeld, le président de l'Association des filles et fils de déportés juifs de France, le combat doit continuer plus que jamais.
Chacun de nous est fatigué, trop d'entre nous nous ont quittés, mais collectivement, nous représentons encore une force intransigeante et un engagement permanent, non seulement pour défendre notre mémoire, mais pour défendre aussi contre leurs ennemis, l'État républicain, l'Union européenne et la démocratie.
Il y a 77 ans, 13 152 juifs ont été déportés. Un voyage sans retour commémoré chaque année.
Je dirais.
Merci Sophie Orange dans le 15e arrondissement de Paris pour RTL. Un homme est mort ce matin à Renaison dans la Loire. Il a été tué par la chute d'une grosse branche d'arbre à cause sans doute des violentes rafales de vent hier soir. La victime avait environ 70 ans. Son corps a été retrouvé par un promeneur sur un chemin forestier.
RTL Midi.
Mélina Fachin.
Il est midi et 38 minutes, apprêtez-vous à ressortir les ventilateurs. La canicule est de retour dès demain sur toute la France, entre 30 et 35 degrés prévus sur la moitié nord, jusqu'à 38 voire 40 au sud. Et il n'y a pas qu'en Europe qu'on souffre de la chaleur, en ce moment les États-Unis étouffent. Bonjour Philippe Corbet.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. De votre côté de l'Atlantique, la canicule a déjà fait plusieurs victimes.
Oui, au moins 6 morts pour l'instant, du sud-ouest à la côte est, et cette vague de chaleur a concerné jusqu'à 200 millions de personnes du mid-ouest à la côte atlantique où elle se trouve maintenant. Le jour se lève ici à New York et pour la seconde nuit de suite, les températures sont restées élevées, autour de 28-30 degrés. C'est surtout ça qui affaiblit les organismes et en plus ici, les vagues de chaleur sont humides. C'est très désagréable de marcher dans la rue, de prendre le métro. Cette humidité met les corps à l'épreuve et les températures nocturnes empêchent de récupérer convenablement. Il devrait faire à nouveau 37-38 degrés à l'ombre cet après-midi à New York, Washington, Boston, Philadelphie. La température ressentie a approché des 50 à Baltimore, au nord de Washington. Alors, la côte Est a déjà connu des températures similaires à plusieurs reprises lors de la dernière décennie, mais c'est vrai qu'elles sont plus fréquentes qu'au siècle dernier. Il y a eu localement des coupures d'électricité car beaucoup de logements ici sont équipés d'air conditionné et le réseau est très sollicité. Le triathlon de New York a été annulé, mais les matchs de baseball ont bien lieu.
Merci Philippe Corbet. On reste aux États-Unis, mais pour parler foot. Ce n'est pas vraiment le sport national là-bas, mais en ce moment, à Washington, se dispute la première édition des EA League Games, un tournoi de promotion du championnat français outre-Atlantique avec 4 clubs participants, Marseille, Bordeaux, Montpellier et Saint-Etienne. Cette nuit, à 3h, heure française, ce sera la finale entre Marseille et Bordeaux, l'OM qui pourra compter sur ses supporters américains. Arnaud Auger est un jeune Varois qui vit à San Francisco. Il a créé le fan club OM Silicon Valley et plusieurs de ses membres, comme Ryan, ont eu un véritable coup de foudre pour les Phocéens.
Ryan, il a une histoire extraordinaire. Né et grandi en Californie, il ne parle pas français. Et il était missionnaire au Congo. Et au Congo, tout le monde était fan de l'OM. Donc il a eu le virus de l'OM au Congo, puis il est rentré en Californie. Et depuis, je pense que c'est le plus gros fan de l'OM qu'il y a. Il fait 1h30 de route tous les week-ends pour voir les matchs avec nous à San Francisco parce qu'il habite un peu plus haut en Californie. Il voulait avoir la plaque d'immatriculation à l'OM puisqu'aux États-Unis c'est possible. Le seul problème c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui l'avait réservé et on l'a trouvé ce week-end d'ailleurs, une fan qui avait offert ça à son mari qui est fan de l'OM. Et après il y a des Américains qui sont allés en voyage à Marseille. On leur a dit d'aller voir un match au Vélodrome et là ils ont été subjugués. C'est le choc des cultures, mais voilà, le coup de foudre aussi.
Arnaud Auger, président du fan club OM Silicon Valley au micro RTL de Sylvain Charlet. Allez, une petite bouffée d'air frais pour finir, ou plutôt d'eau salée. Je vous propose d'aller visiter le plus vieux phare de France encore en activité, celui de Cordouan qui guide les marins au large de l'estuaire de la Gironde. Chaque année, d'octobre à avril, il accueille 23 000 visiteurs, parmi lesquels Jean-Marc Terrier.
Du haut de ses 67 mètres, le phare trône depuis 400 ans au large de l'estuaire de la Gironde.
Bonjour à tous.
Michael est l'un des 6 employés qui assure les visites.
C'est bien plus qu'un phare. Normalement, un phare, c'est faire de la lumière, basiquement. Ici, on a un monument historique.
Se retrouver à l'intérieur après une traversée en bateau est toujours un moment très particulier.
Fabuleux. Il n'y a pas d'autre monde, c'est fantastique.
Étage par étage, on découvre vraiment une chapelle, phare des rois, roi des phares, il porte bien son nom.
Aujourd'hui, ce phare est entièrement automatisé, et ce depuis le 29 juin 2012. Le dernier gardien à avoir vécu dans ce monument, c'est Jean-Paul Aymon.
La tempête de 99, ça a fait tomber 4,50 m de galerie. C'est rentré dans la cuisine. Enfin bon, là, ça a été une catastrophe. Il a été classé monument historique en 1862. La cerise sur le gâteau serait qu'il soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le dossier de candidature étant déposé, des inspecteurs de l'UNESCO vont venir observer ce phare incognito. Et la décision finale est attendu en juin 2020.
Reportage de Jean-Marc Terrier au phare de Cordouan pour RTL. Ça ira bien mieux sur les routes aujourd'hui. On sera loin des 700 km de bouchons cumulés atteints hier. Bison Futé hisse le drapeau vert dans le sens des retours, dans celui des départs également, sauf à l'est où c'est orange. Dans un instant, comme tous les dimanches de l'été, Bernard Lehu nous emmène sur les chemins d'écrivains aujourd'hui avec Evelyne Bloch-Dano.